Bonjour à tous, mardi 15 janvier 2019. 2019, je l'ai cette semaine, nous ne sommes plus en 2018, c'est bien en 2019 que nous sommes. C'est l'émission des grands écarts, j'ai l'impression. Nous étions la semaine dernière 4 pour débuter l'émission dans le studio. Je m'attendais ce matin peut-être à trouver une foule de nouveaux bénévoles, que nous soyons une vingtaine autour des micros. Eh bien non, je suis là, je suis seul dans le studio pour le moment, mais très content d'être avec vous. Peut-être Yves-Olivier nous rejoindra-t-il après. En tout cas, pour l'instant, je vous ai pour moi tout seul et j'en suis très heureux. J'ai une foule de sujets à vous proposer. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de long silence malaisant pendant cette émission. Des insolites, il y en a dans l'actualité. J'ai par exemple à vous proposer, alors allons-y pour un petit tour d'horizon. On a par exemple une montre végétale qui illustre la fragilité de la nature. Ça se passe en Suisse bien sûr, puisqu'on parle de montre. Nous partirons également du côté de Terre-Neuve, où se promènent dans les rues des personnages un peu particuliers. On pourrait s'attendre à trouver des écoliers, des animaux. Eh bien oui, ce sont des animaux, mais pas ceux qu'on imaginerait. Également d'un homme dans un tonneau au milieu de l'Atlantique. Oui, il n'a pas besoin d'être secouru, il va bien, ne vous inquiétez pas. D'oiseaux également, on parlera des perruches et de la drague, la séduction chez les perruches ce matin. Voilà, prenons notre envol ensemble, ce sont les voies de service qui débutent. C'est parti. Et débutons cette émission avec le tonneau au milieu de l'Atlantique. Allez, puisqu'il s'agit d'une vraie insolite, oui, celle-là. Une insolite scientifique également. Un aventurier qui traverse l'Atlantique dans un tonneau a déjà parcouru 400 km. À la veille de ses 72 ans, tenez-vous bien, qu'il a fêté hier, avec une double ration de foie gras. Jean-Jacques Savin, un aventurier parti fin décembre des îles Canaries, pour traverser l'Atlantique dans un tonneau, a déjà parcouru 400 km depuis son départ et s'enthousiasme à la vue de baleines. C'est son histoire. Contacté dimanche au téléphone par l'AFP, cet ancien militaire parachutiste qui préparait depuis des mois sa tentative dans le petit chantier naval d'Arès, sur le bassin d'Arcachon, c'est en France, a souligné qu'il avait pris 15 jours de retard en raison de courants qui l'ont un temps dérouté. Ce baroudeur grand sportif s'est lancé à la mer le 26 décembre, pendant que nous nous réveillonnions. Eh bien lui, il se jetait à la mer dans son tonneau. Il s'est jeté de l'île d'El Hierro pour traverser l'Atlantique par la seule force des courants, un périple prévu au départ pour durer 3 mois. « Ce n'est pas grave, mais il ne faut pas que ça s'éternise non plus », dit-il en évoquant la menace en juin d'une dépression tropicale. « Cette nuit a été très mouvementée », raconte-t-il. « Il y a eu des orages, mais ça se passe bien. J'arrive à bricoler. Il y a 2 jours, je me suis même baigné. C'était une journée formidable. J'ai vu un cargo, bon, et une baleine. Ah, voilà qui est plus naturel quand même. C'était une journée de vacances », poursuit-il. « Les journées passent très vite. Je ne m'ennuie pas et c'est super », dit le baroudeur. Il écrit un journal de bord que l'on peut consulter sur Facebook. Si vous allez sur Facebook, tapez TESA, traversée de l'Atlantique en tonneau. Il lit également et se mettra même probablement à peindre. Décidément, il en a emporté des choses dans son tonneau. Jean-Jacques Savin prévoit déjà son repas d'anniversaire avec une double ration de foie gras et du jambon de Tonneins, une spécialité de la région sud-ouest qu'il n'avait pu déguster au Nouvel An car eh bien, le temps n'était pas assez clément. Le baroudeur voyage à bord d'un tonneau, alors c'est un gros tonneau, essayez d'imaginer, on parle de 3 mètres de long et de 2,10 mètres de diamètre. Rien à voir avec les petits tonneaux à vin en bois que l'on trouve dans les caves, rassurez-vous pour lui. Il a été construit en contreplaqué époxy pour résister alors aux vagues, ça on pourrait s'y attendre, mais pour résister également par exemple aux attaques éventuelles d'orques qui pourraient prendre le tonneau pour un gros poisson. Il y a un espace vide à l'intérieur de 6 mètres carrés. Donc comme quoi on est à son aise, 6 mètres carrés c'est immense. L'aventurier espère que les courants le porteront naturellement jusqu'aux Caraïbes. Pour la science, et oui parce que c'est pas seulement pour le voyage, pour la science il doit aussi largué des balises d'une organisation internationale qui observe les océans, la JCOMMOPS pour le nom, afin d'étudier les courants de l'océan Atlantique. Et il fera lui-même l'objet de tests sur la solitude en milieu clos. Même le vin sera à l'épreuve. Du Bordeaux, dans une amphore en terre cuite, sera comparé au même vin resté à terre. L'aventure, parrainée par le fabricant girondin de tonneaux Boot, repose sur un budget de 60 000 euros qui avait été collecté notamment grâce à un financement participatif. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais monsieur, dans votre tonneau au milieu de l'Atlantique, bon vent et bon courant surtout.
So encumbered by the fear of the unknown. I'm not like the others, never let you suffer at the hands of anyone, no. How can you ever say that I won't be around? It's ruined us, this notion, questioning devotion, here my love is still unbound. Can't go back to find myself. Low hands down, I've changed my ways. How can you ever say just what I am capable of? You know I've always been by your side this whole time. And it's ruined us, this notion, questioning devotion, here my love is still unbound. I'll never let you suffer, just a king without a crown. Can't go back to find myself. Low hands down, I've changed my ways. Can't go back to
le Montréalais Murray Lightburn, ex-leader de la formation The Deers, et la pièce Change My Ways, c'est un extrait de son nouvel album Hear Me Out.
Je m'y voyais au milieu de l'Atlantique en fermant les yeux. Merci Jean-Sébastien. Et pendant que je fermais les yeux, eh bien, j'ai un compère qui m'a rejoint dans le studio. Yves Olivier est arrivé, est à c'est mes ça. Côtés. Bonjour Yves Olivier.
Merci, merci. Quel accueil.
Ben,
un
oui,
mirage, c'est
en,
ça
en fanfare. un beau mirage, un mirage avec une vraie voix en tout cas. De quoi allez-vous nous parler
ce écoutez,
matin
on va tenir informer les auditeurs sur des habitudes de vie pour commencer. Donc on va parler de des commandes de plats préfaits. Je ne sais pas si vous connaissez la compagnie Good Food.
De nom, oui, effectivement.
Ouais, puis donc qui permet de pouvoir faire ses propres menus. Et ça vient avec la recette et tout. Puis c'est très bien fait. C'est juste qu'ils ils sont en mode, je veux dire, en campagne de séduction. Hein, donc ils vous permettent d'avoir tout un panier de repas, mais à un prix modique. Mm-hmm. Puis je pense qu'il y a eu beaucoup d'utilisation de ce concept-là. Et là, bon, bah, le marché Good Food a presque doublé sa perte.
Ah, sa perte.
C'est ça. Donc, ça fait à peine... Donc, en ce moment, ça va très mal. Et on va espérer qu'ils vont s'en sortir parce que le concept est quand même bien. Mm-hmm. Et en fait, ça vient de sortir. Donc, ce lundi, une perte nette du premier trimestre presque deux fois plus importante qu'un an plus tôt, malgré une croissance de 164% de ses revenus sur un an et une hausse de 42% de son nombre d'abonnés par rapport au trimestre précédent. Donc l'entreprise montréalaise qui offre des solutions de repas a fait état d'une perte de 4,9 millions, soit 9 cents par action pour le trimestre clos le 30 novembre, comparativement à une perte nette de 2,5 millions ou 5 cents par action pour la même période l'année précédente. Donc c'est pas qu'ils n'ont pas d'abonnés, c'est pas que le concept marche pas, je pense que c'est plus il y a quelque chose à faire au niveau du pricing d'après moi si je me fie à ces chiffres là. Cette augmentation de la perte nette était donc comme je vous dis principalement attribuable à l'augmentation des dépenses de marketing et des dépenses salariales administratives visant à appuyer la croissance de la société. Les revenus de Good Food ont avancé à 29,6 millions, une hausse que l'entreprise a essentiellement attribuée à la croissance soutenue du nombre d'abonnés actifs et au lancement d'une plateforme nationale. À la fin du premier trimestre, l'entreprise comptait 126 000 abonnés actifs comparativement à 45 000 un an plus tôt. Elle a ajouté 37 000 nouveaux abonnés au cours du plus récent trimestre. Donc c'est quand même des beaux chiffres. Le chiffre d'affaires du premier trimestre était conforme aux attentes des analystes selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Econ, mais la perte par action était plus importante que celle de 7 cents visée par les analystes. Alors, ce que dit le chef de la direction du marché Good Food, Jonathan Ferrari, c'est que la demande pour nos solutions de repas à domicile s'est accélérée partout au pays, avec des ajouts nets d'abonnés records ce trimestre, soit plus du double de notre précédent record trimestriel de 16 000 ajouts nets. Nous devons également réaliser une marge brute ajustée record de 37,7% et un flux de trésorerie provenant de l'exploitation positive pour notre troisième trimestre consécutif. L'action de Good Food a clôturé la séance de lundi en baisse d'un cent à 3,09 $ à la bourse de Toronto. Les résultats financiers de l'entreprise ont été dévoilés après la fermeture des marchés.
Puisque Côme n'est pas là, eh bien, piquons ces sujets. Je vais partir dans l'espace pendant quelques instants. Je ne doute pas qu'il vous aurait parlé de ce sujet s'il avait été là, mais eh bien, c'est Bibi qui s'en occupe.
Mais il nous écoute, je pense.
Il nous écoute, et peut-être n'est-il pas seul, justement, à nous écouter. Puisque de mystérieux signaux de l'espace ont été détectés par des chercheurs canadiens. Des mystérieux signaux radio en provenance de l'espace ont été détectés à l'aide d'un télescope situé au pays, ici, au Canada, et proviendrait d'une galaxie, alors pas juste à côté, une galaxie à des milliards d'années-lumière de la Terre. Il pourrait aider à comprendre l'évolution de l'univers, estime Said Siegel, étudiant postdoctoral en physique à l'université McGill, qui a travaillé à concevoir le télescope et qui est l'un des auteurs des recherches publiées mercredi passé dans la revue scientifique Nature. Des scientifiques de l'université McGill à Montréal, c'est ici, de l'université de Toronto également, de l'université de la Colombie-Britannique, de l'Institut Périmètre de Physique Théorique et du Conseil National de Recherche du Canada, ça en fait du monde, en blouse blanche, ont rapporté cette étrange découverte. Plus spécifiquement, ils ont détecté le deuxième sursaut radio rapide répétitif à être enregistré par des terriens. Pas rien tout de même quand même. Les sursauts radio rapides, les FRB, leur petit nom scientifique, sont de courtes impulsions d'ondes radio provenant d'une source située bien au-delà des confins de la Voie lactée, qui est notre galaxie. Ils sont considérés comme un mystère par les scientifiques depuis que les premiers FRB répétitifs ont été décelés. La découverte du signal extragalactique est l'un des premiers résultats fort attendus du radiotélescope révolutionnaire CHIME, expérience canadienne de cartographie de l'intensité de l'hydrogène, son petit nom, inauguré à la fin de l'année 2017. Il a été conçu et construit par des astronomes canadiens et est situé dans la vallée de l'Okanagan en Colombie-Britannique. Un FRB pourrait provenir d'un amas dense, comme un reste de supernova, ou encore d'un point situé près du trou noir central d'une galaxie, a expliqué par communiqué Thierry Nguyen, membre de l'équipe et astronome à l'Université de Toronto. Mais il reste encore bien des choses à découvrir à leur sujet. Ces découvertes démontrent l'efficacité et la force du télescope canadien, qui permettra sûrement de mener à bien d'autres découvertes, a fait valoir M. Siegel. Donc si Com nous écoute, eh bien peut-être qu'il n'est pas seul et qu'il y a des choses qui nous envoient des ondes là-haut. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow, Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the
le grand David Bowie et cette pièce classique Life on Mars.
David Bowie, il est mort, hein, c'est ça?
Oui.
Oui, là, très bien.
En 2015, oui.
Savez-vous s'il a donné son corps à la science ou
Pas que je sache. Les stars, en général, ne les donnent pas trop. Okay. Non.
Je vais peut-être leur donner le goût de le faire à ceux qui nous entendent en vous parlant justement d'un sujet qui concerne le don de son corps à la science. Mm-hmm. Des milliers de Canadiens qui choisissent volontairement de faire don de leur corps à la science à leur décès. Contrairement au don d'organes, c'est le corps entier qui est pris en charge par les départements d'anatomie des universités. Les corps y sont surtout utilisés pour l'enseignement, mais le développement récent de nouvelles techniques d'embaumement donne naissance à de nouveaux projets de recherche. Alors, je vais vous donner quelques explications d'André Bernard de Découverte. La lumière des néons inonde l'endroit. Une série de tables métalliques s'alignent dans la pièce. On devine les corps posés dessus à la forme des enveloppes de plastique blanc qui les recouvrent. On se croirait à la morgue, à la différence que l'endroit est grouillant de vie. Les techniciennes du laboratoire d'anatomie de l'Université du Québec à Trois-Rivières s'affairent tout autour. Elles préparent les corps pour les prochains groupes d'étudiants. Chaque année, ils défilent par centaines dans ce laboratoire d'anatomie. Ils sont étudiants au collège ou à l'université. Ils poursuivent des études techniques ou des formations en médecine. Les corps deviennent des outils précieux d'apprentissage. Au-delà des illustrations détaillées ou des mannequins, les cadavres offrent le réalisme du corps humain. Rien ne les remplace, selon les étudiants, pour étudier les structures internes, apprécier les variations d'un corps à l'autre, se familiariser avec la texture des tissus et se faire une représentation mentale en trois dimensions de la disposition des organes, des os, des muscles et des nerfs qui parcourent le corps. Si l'enseignement de l'anatomie représente une bonne part de l'usage qu'on fait des corps, ce n'est pas la seule utilisation. En chirurgie, les cadavres s'avèrent aussi très utiles. Ils permettent entre autres de tester différentes approches ou encore, pour les médecins résidents, de s'entraîner à répéter les gestes chirurgicaux avant de procéder à de véritables opérations. L'amélioration des méthodes d'embaumement a permis d'élargir l'usage des corps, aussi bien pour l'enseignement en chirurgie qu'au niveau de la recherche. Traditionnellement, les corps sont embaumés à partir d'une solution à base de formol. Cette méthode a pour effet de rigidifier le corps, les organes et les tissus. La méthode est parfaite pour l'enseignement de l'anatomie, mais moins adaptée à la chirurgie puisque les tissus n'ont plus la consistance de ceux d'un être vivant. Deux autres méthodes d'embaumement, celle au sel saturé et la méthode Thiel, permettent de conserver certaines propriétés physiques des tissus tout en assurant la conservation des corps à long terme. La méthode au sel saturé permet par exemple de bien conserver le cerveau et de préserver sa texture, même chose pour la peau. La méthode Thiel, qu'on appelle THIEL, quant à elle, permet de maintenir une grande flexibilité des articulations et de maintenir la souplesse de certains tissus comme les poumons. Ces méthodes se sont révélées particulièrement utiles pour les travaux du groupe de recherche Caviar, qui regroupe des chercheurs canadiens et français. Leur objectif est de mieux comprendre et d'améliorer la ventilation durant les massages cardiaques. L'utilisation du cadavre Thiel, dans leur cas, s'est révélée un bon modèle pour étudier la dispersion de l'air dans le système respiratoire durant les massages cardiaques. Alors que le cadavre est branché à un respirateur artificiel, les poumons se gonflent à nouveau. La cage thoracique se remet à s'ouvrir et à se fermer. Pendant ce temps, des capteurs mesurent des changements de pression. En plus des projets de recherche actuels à l'UQTR, d'autres vont bientôt s'amorcer, dont un projet en thanatologie criminalistique. Le projet consiste à évaluer la décomposition des corps en milieu naturel en vue d'améliorer les méthodes de recherche et d'identification des restes d'une victime. Donc, quelques chiffres. La majorité des départements d'anatomie des universités québécoises peuvent recevoir des corps destinés à la science. Certains critères s'imposent au moment de faire don de ce corps, dont le poids du corps qui ne doit pas dépasser 90,7 kg, 200 livres en fait. Donc il ne doit pas être embaumé ni avoir subi une autopsie, il doit contenir tous ses organes vitaux. Le don d'organes n'est pas compatible avec le don de corps. Le corps ne doit pas avoir été endommagé par un accident majeur ni avoir porté d'une maladie, avoir été porteur d'une maladie contagieuse. Donc vraiment, quelqu'un en bonne santé, malheureusement, serait mort.
Assez précis quand même, voilà. Effectivement. Intéressant, voilà. J'ai appris plusieurs choses. Je ne pourrais pas du tout être étudiant dans ces universités, ça me donne un peu la chair de poule. Mais écoutez, oui, ça fait progresser
la science. Rendu là, je pense que c'est une passion, c'est là où tu étais vraiment testé.
Une vocation même, effectivement. Merci. Nous sommes en hiver, cela ne vous aura pas échappé, et donc qui dit hiver dit on peut croiser des choses un peu bizarre, surprenante, en tout cas dans les rues parfois. En été, on a l'habitude de croiser alors souvent des ratons laveurs ici à Montréal. Avez-vous déjà croisé autre chose? Moi, j'ai déjà croisé des renards, coyotes, ça oui, dans Montréal, ils s'aventurent parfois.
Vers Halloween, je croise souvent des gens déguisés en coyotes ou en renards ou en ratons laveurs.
Oui, effectivement, ce sont les mêmes animaux, pas les mêmes personnes à l'intérieur, merci Olivier. Mais il y a des villes où, en ce moment, on peut croiser des animaux encore plus étranges, des phoques. Eh oui, des phoques dans une ville de Terre-Neuve qui se promènent dans les rues. Ça se passe à Roddington, Terre-Neuve et Labrador. Les autorités fédérales des pêches ont secouru au moins 8 phoques dans une ville de Terre-Neuve où des dizaines de mammifères marins envahissent les rues depuis plus d'une semaine. La mairesse de Roddington, Sheila Fitzgerald, a indiqué dimanche qu'il restait encore plusieurs phoques dans la ville, mais elle s'est dite satisfaite que le ministère des Pêches travaille à les attraper pour les réintégrer dans l'océan. La ville de Roddington, qui est située dans le nord de Terre-Neuve, est sur le bord d'un cours d'eau qui a gelé, après quoi sont restés pris un groupe d'environ 40 phoques quand même, du Groenland, affamés et un peu perdus. Avec l'aide des citoyens, les agents du ministère attrapent les phoques et les reconduisent dans la localité d'Engly, à environ 20 km au sud, où ils sont replongés dans l'océan. Bien qu'ils soient mignons, les phoques se sont avérés une nuisance dans la ville en effet, et posaient un risque de sécurité pour les automobilistes notamment. Les phoques allaient sur les rues et dans les entrées de maisons, et les citoyens ne pouvaient pas les bouger parce qu'il est illégal de toucher les mammifères marins. Les autorités fédérales resteront dans la ville toute la fin de semaine pour poursuivre leur travail, selon la mairesse. Une porte-parole du ministère a indiqué que les agents avaient remis dans l'eau 8 phoques jusqu'à maintenant. 3 des phoques semblaient blessés, mais ils ont retrouvé leur habitat sans problème malgré tout. Et nous revenons dans quelques petits instants avec d'autres sujets.
Tout à fait, donc on va se diriger vers l'Afrique pour faire un peu le constat de certaines épidémies en cours en ce moment. Et ensuite un sujet un peu plus léger, je vous propose une destination de fin de semaine pour l'hiver.
De fin de semaine pour l'hiver, exactement. Très bien pour nos... Excellent, et bien moi nous continuerons, écoutez j'ai annoncé des sujets en début d'émission, je ne suis pas un politique, je tiendrai mes promesses et nous les lirons, vous verrez. À dans quelques instants. Revoici, nous revoilà, dirigeons-nous vers l'Afrique, donc vous le disiez, avec un sujet sérieux. Oui, il y a aussi des actualités sérieuses dans le monde.
Non, c'est sûr, exactement. Puis c'est surtout que des fois, c'est surprenant qu'on ne parle pas de certains sujets, alors que ça se passe, que ça, c'est de grande envergure, puis que ça pourrait même nous toucher.
Oui, oui, ça touche des centaines, dizaines, centaines de milliers de personnes.
Exact,
parfois.
Et on est très mobile de nos jours. Donc quand on parle d'une épidémie comme l'Ebola, et la dernière fois que ça s'est passé en Afrique de l'Ouest, on a bien vu à quel point on pouvait tous rapidement être touchés. Je pense que c'est important de pouvoir donner une mise à jour de la situation en ce moment en République démocratique du Congo, là où il y a eu d'ailleurs récemment des élections, donc un nouveau président depuis quelques semaines. Et là, en fait, il y a une région qui a été meurtrie par des décennies de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, le Nord Kivu, et ce qui connaît en ce moment la pire épidémie d'Ebola de l'histoire du pays. Les nombreux groupes armés présents dans la région compliquent la riposte de l'OMS et du ministère de la Santé. La crise pourrait dégénérer. Ça, c'était juste une petite mise à jour, sachant qu'en fait, l'Ebola, au début, les symptômes, c'est de la fièvre.
Tout simplement.
Et quelqu'un peut embarquer dans un avion et la journée d'après se ramasse dans un autre pays. Et si, par exemple, dans le pays où il arrive, ils ne sont même pas préparés à traiter la maladie, c'est donc la mise en quarantaine, des choses comme ça. Et rapidement, quelqu'un peut propager l'épidémie à grande envergure. Ça m'amène à un autre sujet qui est celui de la malaria, qu'on appelle également le paludisme. C'est un business aussi parce qu'il y a beaucoup de médicaments en arrière et les laboratoires commencent à jouer du coude avec la médecine naturelle. Alors, Bernard Krutzen de France 24 qui nous informe que le paludisme fait 500 000 morts par an, principalement en Afrique, et que les parasites développent des résistances aux molécules antipaludiques. Les autorités sont toujours réticentes à recourir à l'Artemisia annua. Cette plante, donc c'est l'armoise annuelle, est consommée depuis deux millénaires en Chine pour soigner le paludisme. Ni toxique, ni une drogue, elle est pourtant déconseillée par l'OMS et interdite dans certains pays, dont la France et la Belgique. Donc, affaire à suivre là-dessus.
Mmh, oui, effectivement. Quand la question des laboratoires embarque, ça devient plus compliqué.
C'est ça, exact.
Continuons à parler science un peu, décidément il y en a ce matin, de manière un peu plus légère. On va parler de science et de séduction chez les oiseaux. Chez les perruches très exactement, puisque eh bien, il y a des scientifiques qui étudient les perruches. Les dames perruches préfèrent apparemment les mâles intelligents, titre Le Soleil. Les experts des perruches ont depuis longtemps observé que les femelles appréciaient chez les mâles la splendeur d'un plumage ou la virtuosité d'un chant. Mais ce n'est pas tout. Mais pour sélectionner un partenaire, prennent-elles également en compte l'intelligence ? Charles Darwin l'avait théorisé, mais l'hypothèse s'est avérée difficile à vérifier, en tout cas chez les animaux. Eh bien, une expérience conduite par des chercheurs de l'Académie chinoise des sciences et de l'Université néerlandaise de Leiden, publiée jeudi dans la revue Science, semble donner une réponse affirmative à cette question fondamentale sur l'évolution. Les chercheurs ont réalisé un test sur un total de 34 perruches ondulées, une espèce présente en Australie. Prenons l'une des femelles recrutées. Dans un premier temps, elle a été placée en présence de deux mâles. Elle en a naturellement choisi un. Les chercheurs ont su lequel en mesurant combien de minutes elle passait avec l'un plutôt que l'autre dans la cage. Puis le mâle non préféré a bénéficié d'un entraînement privilégié afin d'apprendre à ouvrir deux types de boîtes contenant des graines, par exemple. Le mâle préféré n'a reçu, lui, aucune formation. La femelle a ensuite observé les deux mâles face aux boîtes, un exercice cruel pour le mâle préféré qui n'a pu que montrer son inaptitude à la femelle, tandis que son rival brillait par sa technique d'ouverture. Dernière phase, les deux mâles ont été replacés dans la même cage que la femelle. Les chercheurs avaient l'intuition qu'elle changerait de préférence après avoir observé la piètre prestation du mâle préféré. Et c'est bien ce qui s'est passé. 8 des 9 perruches femelles du groupe test ont changé de mâle et passé plus de temps avec l'ex-mâle non préféré, ce qui n'a pas été observé dans le groupe témoin. L'observation directe de compétences cognitives peut affecter les critères de préférence du partenaire, concluent les auteurs de l'étude, qui démontre selon eux que les capacités cognitives peuvent être sélectionnées directement par le choix du partenaire. En clair, l'intelligence procurerait bien un avantage reproductif, c'est-à-dire un avantage en termes d'évolution. Bien sûr, il ne s'agit que d'une simple expérience, une seule expérience pardon, à ce stade, il en faudra d'autres pour confirmer la méthode et solidifier les résultats, mais deux spécialistes de l'évolution de l'Université de Californie à Irvine, dans un commentaire indépendant publié dans Science, estime que la nouvelle méthodologie présentée jeudi deviendra un outil important pour les futures études sur les préférences de partenaires. En clair, que vous soyez perruche ou humain, ben n'allez pas trop au gym et apprenez à ouvrir des boîtes de graines.
Par-delà les frontières, les prairies et la mer, dans les grandes noirceurs, sous le feu des chasseurs, dans les mains de la mort, il s'envole encore. Plus haut, le cœur est un oiseau. Dans les yeux des mille
Labrador, dans les rues de nulle part, au milieu des déserts de froid, de faim et de fer, contre la tyrannie, il refait son nid. Plus chaud, plus chaud, le cœur est un oiseau.
La voix unique de Richard Desjardins est tirée de son premier album solo, la pièce « Le cœur est un oiseau ». C'est un album de 1988, l'album « Les derniers humains » presque. Vous avez pu entendre également, mais pas interprété par Richard Desjardins, mais pièce qui a été interprétée dans le film « Le party » de Pierre Falardeau.
Très bien, d'accord. Merci pour toutes ces informations.
On vous salue, Richard.
On salue tous les Richards.
On salue Richard. Et on donne la voix à Pierre-Marc Durivage de La Presse.
Très bien.
Car celui-ci a fait des recherches et il nous propose la vallée Bras du Nord, là où l'hiver est roi.
Mm-hmm.
Vous connaissez, vous, Jean-Sébastien? Non?
Okay. Absolument pas.
Bon, bah alors je vous invite à écouter ça. Ça a l'air d'être assez intéressant. Il y a grand à faire dans ce coin-là. L'hiver a beau avoir montré les dents dès la fin novembre dans la grande région de Montréal, il s'est fait bien trop timide par la suite. Là, ça reprend de plus belle, mais... On ne sait pas quand est-ce que ça pourrait remonter. Je ne sais pas si vous avez remarqué déjà entre hier et aujourd'hui.
Oui, oui, ça fait le yo-yo.
Exactement. Alors, mais pas besoin d'aller bien loin pour le retrouver en pleine forme. Alors, je vous propose Saint-Raymond et la vallée, donc Bras du Nord, à 2h30 de Montréal et à 1h20 de Québec. En tout, pour plaire aux amoureux de la saison blanche, survol en rafale. Moins connue que sa voisine creusée par la rivière Jacques-Cartier, la vallée Bras du Nord est en voie de devenir le fer de lance touristique de la région de Saint-Raymond-de-Portneuf. Et pour cause. Il y a un peu plus de 15 ans, la vallée Bras du Nord était fréquentée essentiellement par des canoteurs. Le développement de l'activité s'est toutefois heurté à certains conflits d'usage. Une problématique à régler qui a finalement apporté de belles occasions d'affaires et fait naître la volonté de développer quelque chose, se souvient Frédéric Asselin, le directeur général de la coopérative de solidarité Vallée-Bras du Nord. Aujourd'hui, le réseau de sentiers fait plus de 80 km, dont le sentier du Philosor, un tronçon linéaire de près de 60 km qui commence à Rivière-à-Pierre, à l'ouest. L'aller-retour de ce sentier pour aventuriers chevronnés se fait généralement en 6 jours, en passant d'abord à travers un écosystème forestier plus sauvage avant de longer la crête ouest de la vallée. De nombreux refuges sont aménagés le long du sentier qui passe à travers la ZEC Bastican-Nelson. C'est un des plus grands réseaux de sentiers pédestres aménagés au Québec, soutient M. Asselin. Il comprend aussi de nombreux petits boucles accessibles aux familles dans le secteur de la chute de l'Année, qui est un peu notre tour Eiffel. L'hiver, certains sentiers sont exclusifs à la raquette car ils passent dans des zones marécageuses qui sont impraticables l'été. On peut aussi circuler à pied dans certains sentiers plus fréquentés, dont près de 90% du sentier du Bras du Nord qui se rend à la chute de l'Année. La vallée Bras du Nord s'est forgée la réputation d'être l'un des plus importants centres de vélos de montagne de la province grâce à plus de 100 km de sentiers répartis en deux zones distinctes. 40 km de pistes sont ajoutées l'été prochain dans le secteur Shanahan. La coopérative peut en tirer profit en hiver en proposant plusieurs sentiers de fat bike. Est-ce que là, je commence à avoir votre intérêt, Louis ?
Oui, la fat bike, là, vous m'avez, c'est bon, vous m'avez attrapé.
Exactement. Pour l'instant, on parle de près de 20 km de piste avec accès facile à la chute de l'année. La location de vélo est offerte pour une demi-journée à l'accueil Shanahan pour $45, taxes incluses. Il n'y a toutefois pas de vélo pour les enfants, mais la boutique Sport Expert de Saint-Raymond en propose pour $30 par période de 24 heures.
Ah, voilà, il y a des solutions partout.
Voilà. On salue Sport Expert de Saint-Raymond. Et il faut alors bien sûr les transporter jusque dans la vallée. Le ski. Le ski de haute route progresse à la vitesse grand V au Québec et à la vallée Bras-du-Nord entend s'inscrire comme destination de choix pour les amateurs en quête de poudreuse. La vallée compte déjà 50 hectares aménagés en 6 zones accessibles avec guide. Étant donné que c'est guidé, on amène les skieurs directement dans le plat à bonbons en leur montrant les zones les plus productives, explique Marc-André Lebuy, d'Éco Plein Air, organisme responsable des programmes de ski de haute route. Le territoire est peu skié. Il y a de 8 à 20 visiteurs par semaine qui skient dans la vallée, alors que certains endroits accueillent entre 1000 et 1500 skieurs dans un territoire moins grand. C'est sûr que les gens qui viennent ici vont skier dans la poudreuse. Dans l'avenir, on veut continuer de gérer le territoire en fonction de l'affluence et du niveau de précipitation pour que l'on puisse toujours offrir de la neige fraîche aux skieurs. Parce que l'aire skiable pourrait littéralement exploser sous peu. On va investir $200,000 pour développer le ski de haute route, révèle Frédéric Asselin. On est rendu à chercher les meilleurs endroits et on veut aussi se concerter avec les promoteurs de motoneige hors piste, de même qu'avec les gens de la ZEC, pour que le monde y trouve son compte. Les côtes sont nombreuses près de l'accueil Shanahan et elles invitent à la glissade improvisée. Les gens de la coopérative Vallée Bras du Nord nous ont même suggéré d'apporter nos traîneaux pour en profiter. Mais pas la peine d'avoir nos propres traînes sauvages quand on va au centre de ski de Saint-Raymond qui offre 4 pentes de glissade sur tube avec remonte-pente. Le tarif est de seulement 7,50 $ pour les adultes et de $6,50 pour les jeunes de 6 à 22 ans. C'est gratuit pour les tout-petits. Quant au ski, le centre à vocation familiale offre 8 pentes, dont 2 sous-bois, sur 110 mètres de dénivelé. Cette année, 4 pistes sont éclairées pour le ski de soirée. Ensuite, la motoneige. Saint-Raymond, c'est aussi la plaque tournante de la motoneige au Québec. C'est ici que se rencontrent les sentiers nationaux 23 et 73, pour ceux qui connaissent, qui donnent accès notamment à la Mauricie, à l'Anaudière, aux Laurentides et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais Saint-Raymond se veut bien plus qu'une halte ou un lieu de transit. Depuis 4 ans, la Corporation locale de développement propose l'application Kilomètre Zéro, qui offre plus de 1200 km de sentiers en boucle à partir du centre-ville de la principale agglomération de la MRC de Portneuf. L'application suggère ainsi 7 boucles autoguidées de 85 à 300 km sur lesquelles sont répertoriés 45 relais, haltes, points de service et attraits. Les motoneigistes trouvent souvent difficile de traîner de lourds bagages sur de longues distances, a soutenu Jacinthe Gagnon, agence de développement touristique. Kilomètre Zéro permet ainsi aux gens de faire de belles randonnées avec un minimum de préparation en revenant passer la nuit à Saint-Raymond. On a voulu bonifier notre offre de façon à garder les gens dans la région.
Que de détails et d'informations.
Ça donne envie en tout cas.
Et que d'activités à faire.
Envie, ouais.
Portez-vous une montre aujourd'hui, Olivier ? Non. Non.
Pas possible, j'en reviens pas, j'ai oublié.
Vous avez oublié, je vous la prends.
Je vais y penser toute la journée.
Oh là là. Moi, j'en porte une et quoi de plus banal et courant qu'une montre, ma foi. Il en sort des nouvelles marques régulièrement et c'est parfois difficile de réinventer ce produit qui existe depuis plusieurs siècles.
J'adore notamment le fait qu'il y ait une baisse des prix. Un peu comme pour les lunettes de soleil.
Oui, c'est bien.
Alors, ça permet de...
Il y a quand même des marques de luxe, et je vais vous parler d'une marque de luxe, justement, qui garde les prix assez hauts. Mais je vous parle d'une montre pas comme les autres, une montre unique, une montre végétale, pour illustrer la fragilité de la nature. Ça se passe à Genève, bien évidemment, en Suisse. La marque horlogère suisse H. Moser a présenté lundi passé au Salon de Genève une montre végétale, couverte de lichens, mousses et fleurs des Alpes pour illustrer la fragilité de la nature face au changement climatique. Sa durée de vie dépendra du soin qui lui est apporté, précise cette petite marque de luxe qui a pris l'habitude de dévoiler chaque année une pièce unique pour se démarquer sur ce salon. La montre, appelée Mother Nature, un jeu de mots par rapport à la version anglaise de l'expression Mère Nature, Mother Nature, est conçue pour durer, être transmise comme n'importe quelle montre de luxe, à condition toutefois de savoir en prendre soin, insiste la marque. C'est un projet que nous avons lancé il y a 18 mois, explique Edouard Meilland, son directeur général. Nous avions fait des croquis, mais il y a encore 3 mois, je n'étais pas encore certain que le projet puisse voir le jour. Et puis un jour, notre responsable technologique, qui aime aussi beaucoup jardiner, est arrivé avec une solution. Cette montre mécanique est construite autour d'un boîtier en acier de 42 mm, parsemé de mousse, cresson et minuscules échevéria. Son cadran est fabriqué à partir de pierres et lichens des Alpes, tandis qu'un fin gazon pousse sur le bracelet, qui doit être entretenu à l'aide d'une mini-tondeuse. Elle est hyper fragile, il faut la nourrir 2 fois par jour, je pense que c'est symbolique de notre planète aujourd'hui, poursuit le patron Monsieur Hauser, de H. Moser, pardon. Parmi ses fonctions, elle donne l'heure et les minutes, heureusement, mais aussi elle purifie aussi l'oxygène, recycle le dioxyde de carbone et contribue à la diminution de notre empreinte carbone, détaille la marque, non sans une pointe d'humour, dans sa fiche technique. À l'origine, la montre n'avait pas vocation à être vendue, mais plutôt à être conservée à la manufacture comme pièce exceptionnelle. On m'a demandé si on pouvait l'acheter, mais pour cela, il faudrait la vendre avec les services d'un jardinier. Mais on m'a aussi suggéré de l'envoyer symboliquement à Donald Trump, s'amuse le patron de la marque. En 2017, H. Moser avait fait sensation au salon horloger avec une montre en fromage, fabriquée pour tourner en dérision la réglementation sur le label Swiss Made, fabriqué en Suisse, qui venait d'être révisé. L'an passé, la maison s'était en revanche attiré les foudres de la profession avec une montre dite Frankenstein, dans laquelle étaient mêlés tous les éléments les plus reconnaissables des grandes marques horlogères pour se moquer de la tendance à se réfugier derrière leurs valeurs sûres, avec leur modèle dit iconique au détriment de la créativité. Et cette année, c'est donc une montre végétale qu'ils ont présentée au Salon international de Genève. Eh bien, on verra l'an prochain ce qu'ils ont créé et ce qu'ils ont imaginé.
Ma peine est légère quand le gazon est vert. Quand le gazon est vert, je vois tout à l'envers. J'en fais pas un supplice, j'en fais pas un supplice tant que j'ai le bon tournevis. Moi je lis comme un fou sous le soleil doux. Je dors dans la clarté des étoiles l'été. Je file dans les jours la guitare à l'envers. Puis je flâne dans un lit dans la pluie et le temps passe. Et le temps passe. Ma peine est légère, loin de tous mes travers. Loin de tous mes travers et je sors de l'hiver. Du pied dans l'abysse, je vis sans artifice. Sans but et sans malice tant que l'air est gratis. Je ris comme un fou sous le soleil doux. Je dors dans la clarté des étoiles l'été. Je file dans les jours la guitare à l'envers. Puis je flâne dans un lit en écoutant la pluie. Et le temps passe. Et le temps passe. Je déjoue et des fois je délaisse. Et souvent je lousse la laisse. Et le temps
passé, des fois me dépasser, me perdre dans l'espace et des fois.
Vous aurez sans doute reconnu Vincent Vallière et une de ses pièces les mieux connues qui a eu le plus de diffusion radio. Le temps passe, c'est extrait de son album de 2003, Chacun dans son espace.
Et la transition est toute trouvée, le temps passe.
Tout à fait.
Le temps passe, Yves Olivier.
Le temps passe. Et en fait, cher Louis, on était en train d'avoir une discussion plutôt sérieuse, quasiment un peu philosophique.
Oui, c'est ce qu'on fait pendant les pauses, tout le temps.
C'est ça, la musique terminant, il a fallu qu'on se décide à partager notre discussion avec les auditeurs. En fait, c'est une introduction à mon prochain sujet, parce que je m'apprête à vous parler d'un nouveau challenge, hashtag challenge des réseaux sociaux. Ce qu'on disait en fait tantôt, c'est qu'il y en a pas mal des phénomènes comme ça, des réseaux sociaux, plutôt simplistes. Et des fois, on ne comprend pas trop elle est où la réflexion derrière là, mais il n'y en a juste pas.
Parfois, c'est juste drôle, juste n'importe quoi.
Ça nous fait dire, dans le fond, quand on commence dans la vie, on nous apprend à imaginer avant de réfléchir. Et donc, la suite, c'est d'abord, on imagine, on s'amuse, et ensuite, on réfléchit et on pense. Et là, on est en train de critiquer le fait de revenir à l'imagination, alors que c'est ce qui nous amène vers la réflexion. Et vous m'avez dit que vous avez liké récemment la photo.
Je vous ai parlé, oui.
Riez-vous de gêne?
Un peu à la fois. J'ai liké la photo récemment de l'œuf. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a un grand mouvement sur Instagram en ce moment qui a fait d'une toute simple photo d'œuf la photo la plus likée de l'histoire.
C'est ça.
J'ai regardé tout à l'heure. On en est à 40 millions de likes et ça augmente à chaque seconde. Voilà.
C'est vraiment un œuf, là. Il n'y a même pas d'effet sur l'œuf.
Sur fond blanc. Voilà, c'est tout.
Et voilà. Donc,
le défi dont vous allez nous parler est un peu plus intéressant, je
c'est
trouve.
C'est ça, c'est le 10 Years Challenge. Mais à première vue, on pourrait la juger, donc, parce qu'on se dit, c'est encore parce que c'est des photos de visage, et on a l'impression que c'est du superficiel et qu'il n'y a pas vraiment de but là-dedans. Mais donc, ça pousse la réflexion. Et en fait, il y a un article qui vient de sortir de Radio-Canada qui informe que les montages photos de nombreux internautes datant de 2009 et de 2019 ont assailli les différents réseaux sociaux dans les derniers jours. En effet, on ne comprenait pas pourquoi, mais j'ai vu plusieurs personnes, moi-même, montrer des photos d'eux d'avant, d'il y a 10 ans et de maintenant. Plusieurs personnalités publiques se sont prêtées au hashtag 10-year challenge. Un défi qui consiste à fouiller donc dans ses archives personnelles pour ensuite comparer à quel point en 10 ans il est possible de changer d'apparence ou de mode de vie ou non. Que ce soit sur Facebook, Instagram ou Twitter, les utilisateurs se sont donnés à cœur joie dans la recherche et la publication d'archives. Si certains ont pris le défi au pied de la lettre et ont osé afficher des photos qui datent, d'autres ont pris un certain plaisir à contourner la règle du défi. Au Québec, plusieurs personnalités connues se sont prêtées au jeu de manière sérieuse, demandant au passage à leurs abonnés s'il y avait un changement flagrant entre les deux photos publiées. L'humour s'est aussi emparé des tonnes de publications qui ont été faites depuis samedi sur les réseaux sociaux. C'est entre autres ce que Phil Roy ou Pierre-Yves Laure ont favorisé comme option pour participer au défi, vous irez voir. L'humoriste et animatrice José Boudreau, qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral en juillet 2016, qui lui a laissé quelques séquelles en ce qui concerne la parole, a quant à elle utilisé l'autodérision plutôt que de prendre le défi au premier degré. Alors qu'en 2014, la campagne virale du Ice Bucket Challenge, lancée dans le but de sensibiliser les gens à la sclérose latérale amyotrophique, SLA, le 10 Year Challenge ne semble pas a priori supporter de cause ou de raison précise. Il s'agirait d'un nouveau phénomène viral d'Internet qui propose des défis, un peu au même titre que le Harlem Shake en 2013, où l'on peut visionner ces vidéos dans lesquelles des personnes dansent de manière loufoque sur la chanson électronique du même nom, ou encore des chorégraphies lip-dub que l'on a pu voir il y a de cela presque 10 ans, notamment avec celles réalisées par les étudiants de l'UQAM. Comme je disais tantôt, Louis, ces phénomènes-là, c'est là où je me rends compte que je suis en train de vieillir, parce que j'ai du mal à suivre avec tout ça.
Yves Olivier est un peu perdu.
C'est ça.
Et ce qui m'amuse le plus, effectivement, c'est les détournements ou les blagues que ça suscite. Ouais. Mes deux préférés étant, j'ai vu quelqu'un tweeter, la NSA vous remercie, c'est eux qui ont lancé le challenge pour mettre à jour leur base de données reconnaissance faciale.
Bien joué.
Bonne idée. Et la deuxième, pour finir sur une note un peu plus sérieuse, eh bien, c'était une photo d'un glacier au Groenland qui, il y a 10 ans, était grand, majestueux, tout ça, et en 10 ans, malheureusement, a beaucoup fondu. Donc ouais, voilà, peut nous permettre de réfléchir un petit peu aussi, c'est tant mieux. Merci Yves Olivier.
Je vous en prie.
C'est la fin de cette émission. Déjà, merci de nous avoir écoutés. Merci Yves Olivier pour ces sujets et pour m'avoir rejoint dans le studio. Une heure tout seul, j'aurais été très content avec les auditeurs, bien sûr, mais bon, j'aurais perdu beaucoup plus de salive. Merci également à Jean-Sébastien Laliberté pour la mise en onde et les choix musicaux. À la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.